Je crois qu'on peut émettre toute une série de pronostics à propos de ce livre, en fait, improbable. Parce que, d'un côté, il est effectivement écrit en français, et c'est en même temps le plus américain des romans, tout en ne l'étant pas. C'est-à-dire que, par la force des choses, ce jeune écrivain ne peut pas avoir ses racines dans le pays où il situe son roman. Dès lors, il affecte malgré lui, par rapport à l'univers romanesque qu'il aborde, une distance, une espèce de différement qui est la clé de l'intelligence extrême du livre. Le livre est construit d'une manière, on peut dire, presque diabolique. Donc il est non seulement construit à l'envers, c'est-à-dire qu'il se lit par, en tout cas, la dénomination ou le chiffrage des romans du 31e chapitre au premier, mais il est aussi à multiples fonds dans le temps, puisqu'il se joue au moins à deux époques, qui est l'époque de la disparition de cette figure tout à fait fascinante de la Nola Kellerghan, et l'époque où se situe véritablement l'enquête, menée donc par un jeune écrivain qui se porte au secours d'un vieil écrivain en 2008. Année 2008, qui est très nommément précisée parce que c'est celle où a été menée la campagne qui a conduit Barack Obama à la présidence des États-Unis. Période de l'histoire américaine, évidemment, dont on peut dire qu'elle marquera l'histoire des États-Unis au même titre que l'assassinat d'Abraham Lincoln ou la victoire des alliés menés par Eisenhower, lui-même futur président à la fin des années 40, début des années 50. Donc de toute façon, Barack Obama, un jour, entrera dans la mythologie américaine. Il y est déjà au niveau des magazines, au niveau de la presse, au niveau de l'actualité immédiate. Il entre brillamment dans la mémoire littéraire à travers un livre écrit par un non-américain. C'est déjà en soi quelque chose qui relève presque de ce que Goethe appelait la Weltliteratur, c'est-à-dire la littérature mondiale. C'est une manière aussi, de la part d'un écrivain européen, insistons-y, de ne pas se laisser distancer par les Américains. Parce que il est évident que le livre est pétri de références, non seulement littéraires, comme on l'a évoqué, mais aussi énormément cinématographiques, et même, pourrait-on dire, picturales, parce que le choix de la couverture, ce très très beau tableau de Hopper, est absolument parfait, et indique bien le même genre de regard que celui que porte l'écrivain sur son décor, ce qu'un peintre fait presque naturellement, parce qu'il est obligé de styliser, obligé de distancier le regard. Il faut un grand écrivain pour y parvenir. Et ça, il le parvient. Cette Amérique qu'il nous décrit, ce petit village, enfin cette petite bourgade d'Aurora, avec ses différentes boutiques et son bar et son snack, le fameux Clark's, n'est tout juste pas réaliste. C'est-à-dire, il pourrait aussi bien être construit dans un studio de cinéma. Il joue de cela. Il joue de la connaissance qu'il a des archétypes. Il joue de tous ces innombrables figures de flics, par exemple, qu'il a repéré dans toutes les séries américaines, dans tous les films américains. Il y a au moins trois flics formidables dans le livre, qui sont Travis Down, Perry Gallalwood et Gawet Poit. Des profils ou des grands spécialistes de l'histoire du roman policier et de la typologie des personnages pourraient retrouver encore une fois des archétypes de policiers. Policiers, bien entendu, ripoux, pourris. Et nous voyons bien que la complexité du livre se développe autour du paradoxe qu'il n'y a à peu près aucun de ces policiers qui soit véritablement un justicier. Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails pour ça. Il y a d'innombrables mises en abîme dans le livre. La plus prégnante, la plus importante, évidemment, c'est celle de livres en train de se faire. Et il n'y a pas qu'un seul livre en train de se faire. Et ça aussi, c'est très piquant parce que ça entre en collision avec le formalisme européen, pas le formalisme américain. Les Américains n'aiment pas ce genre de vision à la édition de minuit, dans laquelle il y a toujours une question, l'écriture pour l'écriture. Comme disait Ricardo, ce n'est pas l'écriture d'une aventure, mais l'aventure d'une écriture. Ils traitent ça de temps en temps dans leur faculté. Ils invitent des écrivains comme Robrier dans les années 50 ou d'autres contemporains. Mais au fond, ils n'y croient pas. Au fond, c'est un jeu pour esthètes, c'est un jeu pour savants, c'est un jeu pour cérébraux, qui malheureusement contribue à une espèce de scission entre ce que serait la littérature populaire et la littérature élitaire, disons. Or, et ça c'est la formidable insolence de Dicker, c'est qu'il synthétise les deux. C'est-à-dire, il fait un livre qui est un véritable page-turner, parce que moi j'ai lu ce livre en 8 jours, c'est-à-dire en ralentissant un peu la lecture, parce que j'y prenais un évident plaisir. Donc un livre qui est fait pour le plaisir, de manière insolente, de manière catégorique, et qui est en même temps inimaginablement savant dans la réflexion sur le phénomène littéraire. Ça, c'est sans précédent. On voit souvent, notamment dans des nouveaux romans, des prélèvements comme ça sur le corpus du roman populaire, mais jamais de manière aussi radicale. C'est-à-dire que ici, on peut très bien lire ce livre au premier degré. Et d'ailleurs, c'est la bonne manière de le lire, je crois, en fin de compte. C'est le lire dans l'innocence, c'est le lire dans le plaisir transparent que des centaines de milliers de lecteurs sont en train de prendre à le lire, et pas seulement en français, mais dans toutes les langues il va paraître. Mais en même temps, je sais très bien que dans d'innombrables facultés, on va faire des mémoires, des cours, voire des doctorats sur la façon dont est extraordinairement construite l'intrigue comme un emboîtement de fiction les unes dans les autres. Et il va même plus loin dans cette ambition-là, puisqu'il tente une espèce de philosophie de l'écriture, où notamment l'écriture est mise en relation avec la boxe. Alors là, on est à la fois dans une vérité fondamentale de la grande littérature, c'est-à-dire que quand Liris, dont on parlait il y a peu de temps encore, parlait de la littérature comme d'une tauromachie, c'est-à-dire d'un vrai combat avec l'ange. Mais de l'autre côté, on sait bien aussi que le seul pays où la boxe est mis nommément en rapport avec la littérature, c'est les États-Unis. Et notamment par le personnage et l'auteur qu'on attend le moins sur ce terrain, c'est-à-dire la toute frêle et très féminine Joyce Carol Oates, qui a fait un livre magnifique sur la boxe. Mais la boxe, comme métaphore de l'écriture, est aussi la boxe comme image de la rencontre face à face des deux personnages centraux, qui sont donc Harry Kéber du titre et Marcus Goldman. Et là, on est dans un très beau livre de la transmission, et un très beau livre aussi de la dévotion au maître. Mais en même temps, elle est terriblement subvertie, parce que ce maître, finalement, il s'avérera qu'il n'a rien de tellement respectable. Et que même, il faut lire le livre évidemment pour savoir pourquoi, mais de se dire qu'un mentor peut être un menteur. Et là aussi, on est dans une espèce de noyau dur qui donne sa solidité à l'ensemble. Alors, autre mise en abîme, absolument incroyable là, c'est qu'il est question nommément de grands succès littéraires. C'est-à-dire qu'il est question d'un jeune homme, à peu près de l'âge de l'auteur, qui s'appelle Marcus Goldman, et qui est lui-même un best-seller. Il est un best-seller, il a discuté avec des avocats, avec son éditeur, Il y a une magnifique satire de l'édition américaine. Il y a le cynisme absolu de son éditeur Barnaski, qui lui voit tous les dollars que va lui apporter la cause qu'il a embrassée, alors que le pauvre Marcus, lui, il y va de bonne foi. Mais l'autre est derrière pour essayer d'en réclamer les miettes éditoriales et le succès phénoménal qui est au fond la seule obsession de l'édition américaine. Et qui oblige évidemment les écrivains, et ça nous amène au début de ce qu'on disait, à pouvoir négocier entre leur ambition propre, leur génie quelquefois, parce que la référence à Stephen King est très importante. Stephen King devrait laisser sans voix tous ceux qui pensent que dès qu'un livre a du succès, il est nécessairement médiocre. C'est impossible. On n'a jamais vu de grands livres avoir du succès en étant médiocre. Ce sont les lecteurs qui doivent à un moment donné admettre, et notamment les juges, entre guillemets, qui un jour doivent rendre les armes et dire « Non, ce Simenon que nous avons tant méprisé est un des génies du XXe siècle. » Il faut arrêter dans les facs de n'étudier que de la littérature de dentelle. Il faut essayer de comprendre pourquoi de grands succès sont de grands succès. Et dans le cas de Stephen King, et ça se retrouve ici, c'est un auteur qui sait raconter des histoires, c'est un auteur qui sait camper des personnages, c'est un auteur qui élargit notre vision du monde par son extraordinaire sens de l'insolite et du fantastique et du cauchemardesque. C'est-à-dire qu'il nous permet, en tant que lecteur, de vivre par la lecture ce que nous sommes arrivés à amener à vivre chaque nuit dans l'inconscient. C'est-à-dire qu'il raccorde la conscience et l'inconscience. Ce qui est le propre de la poésie, d'ailleurs, si on y va bien voir. Alors, ce n'est pas du tout par hasard que c'est Stephen King qui a été un des auteurs de romans les plus adaptés au cinéma. Parce que dans la grotte, dans la caverne platonicienne qui est un cinéma, on est dans le lieu idéal pour faire émerger les fantômes et tous les succubes, enfin toutes les créatures de l'inconscient. Et au centre du roman, il y a une créature que je trouve typiquement de cet ordre-là. C'est quand même assez stupéfiant de se dire combien on peut énumérer d'œuvres littéraires, picturales, musicales, dans lesquelles le thème de la femme fatale apparaît. Et la femme fatale, qui a des occurrences contemporaines importantes, une des plus récentes étant évidemment la Lolita, elle trouve ici une nouvelle incarnation dans cette Nola. Parce qu'on a beau dire, on est bombardé d'informations à son propos, on la voit sous tous les angles, mais comment déterminer si elle est sincère ou au contraire une extraordinaire falsificatrice, si elle est complètement emportée dans le délire ou si elle vit réellement une tragédie? Est-ce que c'est une amoureuse ou est-ce que c'est une tueuse d'hommes? La grande vertu du livre, c'est qu'elle nous laisse dans la totale perplexité à son propos. Alors, avoir un livre qui est aussi gigantesque, qui va compter des je ne sais combien de centaines de milliers de signes ou de mots, comme disent les Américains, donner un tel amas d'informations et en même temps maintenir le mystère intact, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Et je crois que, évidemment, l'Académie française ne s'est pas manquée de le signaler. Le Goncourt des jeunes, qui est beaucoup plus authentique que le Goncourt des vieux, l'a confirmé. Et à mon avis, ça va pas s'arrêter. Et aujourd'hui, je pense aussi que ce livre préfigure, pour le meilleur et pour le pire, une littérature européenne forcément marqué par un imaginaire européen, américain, pas tellement par la littérature d'ailleurs, mais aussi par ses dérivés qui sont notamment aujourd'hui les séries télévisées. Puisqu'on doit admettre que les séries télévisées ne cessent de se sophistiquer davantage, sont en train de prendre tout à fait la place qu'avaient les feuilletons au XIXe siècle, feuilletons qui étaient écrits par des gens aussi éminents qu'Alexandre Dumas ou même un certain Edgar Balzac. C'est peut-être là que ça se passe. Et qu'un jeune homme de moins de 30 ans soit arrivé à synthétiser tout ça, ça laisse pantois. Et on a envie surtout de lui souhaiter bon vent et bonne chance.